Donc, je suis très honoré de pouvoir prendre la parole ce soir devant vous. Je tiens à remercier M. Frédéric Worms, qui non seulement anime cette conférence débat, mais aussi qui nous accueille en tant que responsable du Centre international d'études de la philosophie française contemporaine pour organiser cette conférence débat. Celle-ci s'organise également avec le concours de la Maison de la culture du Japon à Paris, qui m'a généreusement invité à donner des conférences en France. Je devrais être un des premiers à venir parler dans ce cadre, parce qu'il s'agit d'un accord bilatéral, comme vous l'avez rappelé. Donc, il s'agit d'un accord bilatéral conclu en janvier 2014 entre l'École normale supérieure et la Maison de la culture du Japon à Paris. Par ailleurs, j'aimerais vous rappeler que l'École normale supérieure avait déjà logé des générations de boursiers japonais du gouvernement français, dont je fais modestement partie. Étienne Balibar, donc éminent normalien, mon interlocuteur pour ce soir, et mon ancien directeur de thèse à Nanterre, est sans doute mieux placé que moi pour en témoigner, puisqu'il me semble qu'il a rencontré des auditeurs japonais de sa génération au début de sa carrière universitaire. En ce qui me concerne, je me permets d'espérer que d'autres anciens auditeurs japonais viendront donner des conférences ou exercer d'autres activités dans le cadre de cette coopération bilatérale. Mon intervention pour ce soir part essentiellement d'une relecture d'ouvrage d'Étienne Balibar qui s'intitule donc L'Europe, l'Amérique, la guerre. C'est ça, voilà. Réflexion sur la médiation européenne. Cet ouvrage date de 2003. Les textes recueillis dans cet ouvrage ont été écrits entre l'automne 2002 et l'hiver 2003, si je ne me trompe. Vous vous souvenez peut-être du discours de M. Dominique de Villepin. C'est le 14 février 2003, donc c'est quand même assez ancien maintenant, que le ministre français des Affaires étrangères prononce ce discours, le fameux discours, devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour la France, il s'agissait alors de soutenir la poursuite des inspections des armes de destruction massive en Irak menées par l'AIEA, Agence internationale de l'énergie atomique. L'administration états-unienne d'alors, celle de George W. Bush, prenait une action rapide et préventive pour empêcher la prolifération des armes de destruction massive. Le secrétaire d'État américain de l'époque, Colin Powell, a suggéré dans son discours du 5 février 2003 au Conseil de sécurité qu'il y aurait eu des liens entre le réseau Al-Qaïda et le régime de Saddam Hussein. Malgré l'absence de l'aval de l'ONU, ainsi que la mobilisation d'une partie considérable de l'opinion publique internationale, la coalition menée par les États-Unis commence sa campagne terrestre le 20 mars 2003. L'intervention américaine a pris la forme d'une guerre éclair. En 2 semaines, les forces de la coalition entrent dans Bagdad. Le 1er mai 2003, le président américain George W. Bush déclare depuis un porte-avions la fin des opérations de combat majeures. 8 mois après, en décembre 2003, le président irakien déchu, qui se cachait dans un trou creusé dans le sol, s'est fait arrêter. 3 ans après, en décembre 2006, Saddam Hussein est exécuté par pendaison. Les forces de la coalition ont donc gagné cette guerre éclair. Néanmoins, ce qu'on appelle des actes de terrorisme fait rage en Irak dès la chute du régime baathiste. En 2004, la ville de Fallujah a connu 2 batailles importantes qui opposaient des troupes de la coalition aux insurgés, principalement en sunnites. En 2006, à cette insurrection armée contre les Américains et les forces de la coalition, vient s'ajouter une guerre confessionnelle après un attentat contre une grande mosquée chiite. En 2008, Barack Obama, qui s'était opposé à la guerre en Irak, est devenu élu président des États-Unis. À la fin de l'année 2011, les troupes américaines achèvent leur retrait, grâce à Obama un peu, et la violence commence alors à regagner l'Irak. Le premier ministre irakien d'alors, Nouri al-Maliki, n'avait pas vraiment réussi à réconcilier les sunnites et les chiites dans le pays. Il est également à noter qu'au cours de la même année 2011, la contestation contre le régime de Bachar el-Assad se transforme en conflit armé en Syrie. Le clivage confessionnel en Irak, ainsi que l'enlisement de la guerre civile en Syrie, explique au moins en partie l'avancée spectaculaire de l'État islamique, qu'on appelle aujourd'hui Daesh, depuis janvier 2014. Cinq mois après, l'année dernière, en juin 2014, Abu Bakr al-Baghdadi se proclame calife. Si j'ai essayé ainsi très rapidement d'esquisser l'évolution de la situation en Irak depuis 2003, c'est donc pour prendre cet ouvrage, l'Europe, l'Amérique, la guerre, comme point de départ de notre discussion. Dans cet ouvrage, l'auteur déclare qu'il prend le risque de penser que les problèmes soulevés n'auront pas disparu du jour au lendemain. Il le dit à la page 8. Effectivement, ils sont loin de disparaître. Au contraire, on les voit se reproduire de façon à la fois élargie et inégale. Permettez-moi de m'étendre un peu sur ces deux adjectifs, deux mots, élargi et inégal. D'abord, j'aimerais vous décrire le concept de l'élargissement tout en restant très schématique. En janvier 2003, l'Irak était un État souverain dirigé par un dictateur, même si sa souveraineté était déjà limitée par l'existence de la zone d'exclusion aérienne imposée par les Occidentaux. Les États-Unis l'ont envahi pour des casus belli, et dont on reconnaît aujourd'hui le caractère profondément faux. Le degré de fausseté a tant frappé les esprits qu'un politologue américain a élaboré une typologie des mensonges en relations internationales à partir de l'emploi de ces casus belli par l'administration Bush. Il s'appelle Mia Shimer, l'ouvrage s'intitule « Why Leaders Lie ». Je crois que c'est un professeur de l'Université de Chicago. S'agissant de la reconstruction de l'Irak après la chute de Saddam Hussein, on peut tout à fait supposer qu'un tel manque de légitimité empêche de surmonter politiquement les dégâts causés par la puissance de feu des forces de la coalition. Une étude de santé publique estime à environ 500 000 le nombre des morts civiles et militaires irakiens liés à la guerre du mars 2003 jusqu'en juin 2011. Certes, l'analyse minutieuse de la politique intérieure irakienne n'est pas à la portée de tous et requiert des compétences que moi je ne possède pas. Néanmoins, je voudrais vous soumettre ici un schéma pour illustrer l'aggravation de la situation depuis 2003. À mon avis, le renversement du régime baasiste de Saddam Hussein a déclenché un processus qui comprend au moins trois volets, trois dimensions. Le premier volet correspond à l'insurrection contre le gouvernement irakien appuyé par les forces de la coalition. Les batailles de Fallujah en 2004 auxquels d'anciens baasistes auraient participé, en semble de bons exemples. La deuxième dimension, le deuxième volet, est celle de la guerre civile confessionnelle ou ethnique entre les sunnites, les chiites et les kurdes. L'ancien premier ministre Nouri al-Maliki, dont le gouvernement était majoritairement composé de chiites, semble avoir tenu à plusieurs reprises des propos complètement clivants contre les sunnites. La troisième dimension, la troisième et la dernière, c'est celle de l'incubation de groupes djihadistes favorisés par les volets précédents et les puissances régionales au Moyen-Orient. Parmi ces groupes dits djihadistes, certains ont réussi, comme l'État islamique, à imposer une assise territoriale tout en gardant leur dimension transnationale pour ce qui est du fonctionnement de leur réseau. Certes, il faudrait sans doute nous méfier de notre tendance à surestimer l'importance de, cette troisième et dernière dimension, d'autant que nous venons de vivre des événements tragiques qui y sont liés. Je pense notamment aux attentats à Paris, et ainsi qu'à l'assassinat des otages japonais par Daesh au mois de janvier 2014. Le pouvoir d'attirance qu'exerce Daesh sur une partie de la jeunesse et la désintégration de pays comme l'Irak me semblent constituer autant de symptômes de l'aggravation des problèmes soulevés lors de la guerre d'Irak en 2003. Si la reproduction des problèmes soulevés en 2003 se formule ainsi, nous pourrons à présent expliciter l'inégalité de leur développement en esquissant l'évolution de la situation en Europe. La question de savoir comment concevoir l'Europe et celle de savoir comment employer cette notion d'Europe dans nos actes de langage constituent des interrogations centrales dans cet ouvrage. Étienne Balibar les a abordées en novembre 2002 à l'occasion d'une conférence à l'université de Humboldt, donc en Allemagne. Le texte de cette conférence est repris comme premier chapitre de cet ouvrage « L'Europe, l'Amérique, la guerre ». Une des caractéristiques de ce texte, donc le premier chapitre, intitulé « Europe, médiation évanouissante », consiste dans le fait qu'il reflète à sa manière la tension qui existait entre la diplomatie française et la diplomatie américaine. Le discours de Dominique de Villepin, que j'ai évoqué tout à l'heure, en est une cristallisation. Dans ce discours, le ministre français des Affaires étrangères parlait, je le cite, au nom d'un vieux pays, la France, d'un vieux continent, l'Europe. Cette phrase fait allusion à, une expression employée en janvier 2003, donc un mois avant, par le secrétaire américain à la Défense, Donald Rumsfeld. Lors d'une conférence de presse, Rumsfeld avait désigné l'Allemagne et la France sous le terme de la vieille Europe, pour affirmer que d'autres États membres de l'OTAN qui se situerait plutôt dans l'Europe de l'Est, par exemple la Pologne, comprennent mieux la politique américaine sur l'Irak. La plupart des débats qui ont eu lieu à ce sujet entre 2002 et 2003 ont été traversés par ce type de tension. Le texte de Étienne Balibar que je viens de citer ne fait pas exception de cette tension. Pour vous rappeler cette tension qui caractérisait le climat idéologique de l'époque, il convient sans doute d'exposer, ne serait-ce que de façon schématique, à la fois à l'opinion de néoconservateurs américains comme Robert Kagan et celle de responsables français. Récapitulons donc très très brièvement les arguments des deux parties. Aux yeux de Kagan, la position européenne postérieure à la chute du mur de Berlin, après la guerre froide, est idéaliste, conscienne, coupée de la réalité extérieure. Les Européens ont commencé à se comporter, après la fin de la guerre froide, comme si le monde s'était transformé en un paradis où la légitimité juridique suffit pour maintenir la paix, alors que la position états-unienne réaliste obsienne, entre guillemets, selon Kagan. L'Amérique est soucieuse de sa suprématie militaire. Elle sait, par conséquent, faire face à la réalité violente qui domine toujours l'histoire humaine. face à cette prétention néoconservatrice américaine, des responsables français répliquent. Nous retenons seulement deux personnages cités dans cet ouvrage, dans l'Europe, l'Amérique, la guerre. Le premier personnage français, le premier responsable français est Jean-Pierre Chevènement. Avec Régis Debray, il est cité comme souverainiste français qui s'inquiète de l'absence de l'autonomie de l'Europe face à la puissance américaine. Jean-Pierre Chevènement soutient l'idée d'une doctrine de Monroe européenne, dont la ferveur pour l'autonomie rendrait la France le champion. Le deuxième personnage est Thierry de Montbrial. Sa solution pour remédier au manque d'autonomie est plus pragmatique. Thierry de Montbrial proposait une triple entente entre la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne en matière de la politique extérieure. Il s'agit de combler l'absence de l'unité européenne avec ce qui existe déjà. En résumé, la solution volontariste de Jean-Pierre Chevènement souligne l'idée de civilisation européenne comme matrice de son unité. La solution pragmatique de Thierry de Montbrial s'appuie sur un calcul de diplomate qui consisterait à additionner les puissances des trois États principaux de l'Union européenne. Dans les deux cas de figure, il s'agit d'anticiper l'unité européenne qui ne reste introuvable. Étienne Balibar parle dans ce livre d'une pétition de principe. D'après moi, cette problématique de l'opposition aux USA ne s'est pas beaucoup développée depuis cette période de 2002 à 2003. La divergence au sujet de l'Irak semble relever finalement d'une époque révolue dans l'histoire diplomatique entre les deux rives de l'Atlantique. Je crains d'ailleurs que les rôles ne soient presque inversés. En 2011, les troupes américaines se retirent de l'Irak, tandis que les forces de l'OTAN, appuyées certes par les États-Unis, mais principalement constituées de forces aéronavales françaises, bombardent la Libye pour appliquer une résolution de l'ONU. En 2013, la France constate l'usage d'armes chimiques en Syrie. Le président Hollande tente alors de convaincre Barack Obama d'intervenir militairement en Syrie. Il n'y réussit pas. C'est seulement en automne 2014 que les États-Unis interviennent militairement en Syrie avec des alliés arabes pour faire face à la montée en puissance de l'État islamique. Je n'évoquerai pas d'intervention militaire française dans la région subsaharienne en Afrique. La réticence de l'administration Obama me paraît clair, tandis que les événements qui se sont produits dans le sillage du printemps arabe concernent davantage l'Europe. En ce qui concerne le souverainisme européen que j'ai mentionné tout à l'heure, il me semble que pour être souverainiste en France, on n'a pas vraiment besoin d'être pro-européen. Quand on est français, il suffit d'avoir la France pour dénoncer les dérives atlantistes de ses compatriotes. La crise de la monnaie unique, l'euro, depuis 2010, ainsi que l'anxiété vis-à-vis du libre-échange et de la politique d'austérité menée par les institutions bruxelloises ont rendu pour l'instant un peu démodée la quête de l'Europe souveraine et unifiée, capable de rivaliser politiquement avec les grandes puissances dans le monde. Pour résumer, je dirais ceci. La guerre d'Irak en 2003 a soulevé un certain nombre de problèmes. Depuis lors, ces problèmes se sont reproduits de façon élargie et inégale. Précisons d'une part que je dis élargie eu égard à la désintégration de l'Irak et à l'influence de plus en plus importante du groupe dit djihadiste. D'autre part, je dis inégale parce que la quête de la souveraineté européenne n'a pas provoqué de sursaut populaire. Il s'en suit qu'il y a des problématiques qui se sont développées à des rythmes différents. j'estime qu'une des vertus de cet ouvrage, L'Europe, l'Amérique, la guerre, consiste précisément dans le fait que l'auteur n'a pas cherché à combler le vide engendré par cette impuissance européenne. En effet, l'évolution de la situation depuis plus de 10 ans explique que le mot « Europe » ne suscite plus aujourd'hui autant d'espoir que lors du discours de Dominique de Villepin à l'ONU. Elle a également rendu un peu obsolète la quête de la grande puissance européenne. Dans ces conditions, la politique de l'impuissance qui envisagerait de déconstruire la notion même de puissance dont l'auteur parle dans ce livre, me paraît particulièrement pertinente. Nous avons intitulé cette conférence débat de ce soir la philosophie médiation entre les corps de civilisation avec un point d'interrogation. C'est au niveau de cette politique de l'impuissance que se situe le terme civilisation dans cet ouvrage L'Europe, l'Amérique, la guerre. Quand on pense à l'histoire des pensées sur les civilisations depuis le 19e siècle, la prise de conscience de l'impuissance de l'Europe ne peut être considérée comme un phénomène inédit. Au contraire, ce type de prise de conscience est apparu et réapparu selon la conjoncture, et cela date probablement de la Première Guerre mondiale. Je dirais même que ce type de prise de conscience a été un des principaux moteurs pour concevoir la construction européenne. On peut se référer par exemple à quelqu'un comme Richard von Coudenhove-Kalergi, qui devient militant pour les États-Unis d'Europe au moment de l'effondrement de l'Empire austro-hongrois. On a peut-être tendance à prendre conscience de l'impuissance lorsqu'on perd une guerre et qu'on se trouve devant la destruction causée par cette guerre. La prise de conscience de l'impuissance ainsi que la réflexion sur les frontières qui opposent les peuples sont des marques de fabrique de l'Europe qui a été conçue et construite au cours du siècle dernier. Dans les années 1920, déjà, Aristide Briand, ministre français des Affaires étrangères, a tenté d'interdire la guerre par un traité international avec son homologue américain, Frank Kellogg. Le schéma binaire sur lequel un néoconservateur comme Robert Kagan s'est appuyé puise une partie d'inspiration dans ce développement pacifiste des années 1920. Selon ce schéma binaire, l'Europe, plus particulièrement la France, prétendrait chercher la paix en se fondant sur le droit international. Toujours selon le même schéma binaire, ce pacifisme juridique ne tiendrait pas compte du rapport de force qui existe notamment en dehors de l'Europe. À ce sujet, Étienne Balibar souligne l'importance de la réflexion chez Carl Schmitt. D'après ce juriste allemand, l'universalité de l'ordre politique international que la Société des Nations prétendait incarner n'était rien d'autre qu'une fiction. Certes, on aurait pu citer plusieurs motifs pour la considérer comme une fiction. C'est vrai que ce n'était pas une organisation très très puissante. Mais Schmitt, lui, fait ressortir le fait que le Sénat américain n'a pas ratifié le traité de Versailles qui avait fondé la Société des Nations. Les États-Unis n'en sont donc pas un membre officiel, bien qu'ils agissent par l'intermédiaire d'autres États américains formellement souverains qu'ils contrôlent. Autrement dit, ce n'est pas à la Société des Nations de contrôler la politique américaine de gros bâton, big stick, dans les Caraïbes, en Amérique latine et ailleurs. Au contraire, les États-Unis maintiennent de facto la doctrine de Monroe tout en se mettant en dehors de la Société des Nations. Et ils exercent de l'influence sur l'Europe comme créanciers du monde. ce qui nous intéresse chez Carl Schmitt, c'est le déplacement progressif des objets auxquels il applique ce schéma. Je vous rappelle que ce schéma est binaire. Il pose la position hobbesienne, celle de la puissance, et la position kantienne, celle du droit international. En 1928, Schmitt attribue le rôle hobbesien aux États-Unis et le rôle kantien à la Société des Nations. Dans un article publié en 1939, donc à peu près 10 ans, 11 ans après, Carl Schmitt essaye de retourner la doctrine de Monroe contre les États-Unis en supposant que l'Europe serait bientôt réunifiée par la puissance militaire allemande. Dans cette perspective, le rôle hobbesien s'attribue naturellement à l'Allemagne. La fiction de la Société des Nations, symbole de la position kantienne, serait remplacée par une doctrine de Monroe, donc germanique, et généralisée, qui justifierait à la fois la domination allemande en Europe et le partage du monde entre les grandes puissances. On n'est pas ici très loin de la sublimation d'une politique de la puissance. Chez Étienne Balibar, il s'agit de déconstruire la politique de la puissance à travers la construction d'une autre politique, une politique alternative, qu'il baptise la politique de l'impuissance. Sa construction pourrait, à mon avis, passer par une réflexion sur le schéma binaire en question posé par les néoconservateurs américains. Pour ma part, je distingue trois dimensions dans ce schéma binaire. D'abord, il y a une dimension où quelqu'un comme Carl Schmitt oppose la fiction juridique à la réalité des puissances, la réalité des relations internationales. En d'autres termes, on pourrait prendre cette première dimension pour une des variantes de l'opposition classique en relations internationales, celle du réalisme à l'idéalisme. Ensuite, il y a une autre dimension, deuxième dimension, qui est toujours structurée autour de deux pôles. Donc ça a toujours une structure, ça a toujours une forme binaire de structure. Il s'agit de celle de la théorie de l'ami et de l'ennemi, que Schmitt a développé dans un texte intitulé « La notion de politique » en 1922. Bien entendu, la tension diplomatique entre la vieille Europe et l'administration Bush n'a pas vraiment atteint l'intensité requise par la théorie schmittienne. Cependant, cette dimension de l'ami et de l'ennemi est importante dans la mesure où, chez un penseur comme Schmitt, elle est intrinsèquement liée à la question des frontières. Enfin, la troisième et dernière dimension est celle des civilisations au sens géostratégique du terme. De prime abord, cette dimension ne semble pas être structurée de façon binaire. Par exemple, Samuel P. Huntington énumère 8 ou 9 civilisations dans son célèbre ouvrage intitulé « Le choc des civilisations », publié en 1996. Or, cette troisième dimension civilisationnelle, entre guillemets, échappe rarement à la dimension précédente, celle de l'ami et de l'ennemi. Car, en réalité, il s'agit d'identifier les différentes sphères d'influence en politique internationale afin de donner des conseils utiles à la politique, aux responsables politiques, en l'occurrence à la politique américaine, plutôt que de synthétiser les résultats de la recherche universitaire en anthropologie sur le métissage culturel ou les différents types de diaspora. Si je résume les conseils de Huntington en quelques mots, cela consisterait à dire que dans le monde postérieur à la chute du mur de Berlin, il faut faire attention aux zones frontalières entre les civilisations, parce que la différence des convictions religieuses, entre autres, autrement dit, la différence des identités peut provoquer ce que Huntington appelle des guerres de fractures, fault line wars, qui risquent de finir par une guerre de puissance principale du monde, Core State Wars. D'ailleurs, à titre d'anecdote, je vous signale que c'est le Japon qui se trouve sur une ligne de fracture civilisationnelle dans le scénario catastrophe que Huntington décrit, développe à la fin de son livre. Coincé entre les États-Unis et la Chine, le gouvernement japonais déciderait un jour de fermer les bases américaines sur l'archipel et il rejoindrait la Chine pour combattre les Occidentaux. C'est pourquoi les Occidentaux et les Russes, aidés par les rebelles tibétains, ouïghours et mongols, attaqueraient la Chine, non pas par la mer, mais par un front de l'Ouest. Les troupes de l'OTAN finiraient par occuper la place Tiananmen. Entre-temps, cette guerre, transformée en un affrontement direct des grandes puissances, risquerait de provoquer des bombardements atomiques en Europe, en Russie, en Chine et aux États-Unis. Toujours selon ce scénario catastrophe, le centre de gravité de la politique mondiale descendrait vers le sud, parce que l'Inde, l'Indonésie et les pays de l'Amérique latine en sortiraient relativement intacts. Bien sûr, il s'agit d'une politique fiction. Mais en même temps, vous voyez bien que Huntington ne conçoit pas la frontière comme une simple ligne de démarcation politique. Dans son esprit, elle est civilisationnelle et elle devrait l'être, surtout au XXIe siècle, parce que l'ingérence dans les affaires des autres civilisations risque de provoquer une guerre. Pour clore ce paragraphe anecdotique, je citerai un autre exemple qui date d'une autre époque, celui de Richard von Kuderhoff-Kalergi. Dans son livre intitulé « Pan-Europe », publié en 1923, Kuderhoff-Kalergi, lui, divise le monde en cinq grandes entités. Il s'agit de l'Empire britannique, de la Russie, du continent américain, de l'Asie de l'Est et de la Pan-Europe. Lorsque je monte à mes étudiants au Japon cette carte de division pan-européenne du monde, cela les étonne un peu parce qu'ils découvrent que non seulement les pays continentaux européens, mais aussi une grande partie de l'Afrique et de l'Asie du Sud-Est font partie de la Pan-Europe. Bref, Kuderhoff-Kalergi considérait les empires coloniaux européens comme faisant partie de la Pan-Europe, en dépit des différences civilisationnelles. Le découpage du monde en plusieurs civilisations me semble rarement neutre. Pour terminer mon exposé, je voudrais revenir à l'interrogation initiale qui a donné le titre à cette conférence débat. Pour le faire, je voudrais me référer à un ouvrage de Marc Crépon intitulé « L'imposture du choc des civilisations », publié en 2002. En effet, Marc Crépon fait, à la fin de son livre, un rapprochement significatif pour notre discussion. Il cite la fameuse définition schmittienne de la politique, qui consiste à dire, je cite, « Il n'y a pas de politique sans désignation de l'ennemi ». Et Étienne Balibar le cite à la page 142. Et Marc Crépon affirme que la théorie de Huntington n'est pas très éloignée de la théorie schmittienne de l'ami et de l'ennemi. Mais si Marc Crépon rapproche Carl Schmitt de Huntington, Samuel P. Huntington, c'est pour montrer la différence qui les sépare. Aux yeux de Marc Crépon, la politique schmittienne ne se réduit pas aux paramètres simplement religieux, moraux, juridiques ou économiques. En d'autres termes, donc je cite, pour Carl Schmitt, la désignation de l'ami et de l'ennemi ne saurait en aucun cas reposer sur leur ontologisation. Elle dépend des circonstances, appelle un choix et une décision. Tandis que pour Huntington, elle est toujours décidée à l'avance. Il n'y a pas à choisir, à juger, selon tel ou tel paramètre politique, puisque c'est l'appartenance civilisationnelle qui constitue le seul critère. Fin de citation. comme le suggère Étienne Balibar, il y a un double mouvement dans ce rapprochement. Dans un premier mouvement, Marc Crépan identifie la présence du moment schmittien chez Huntington. Il s'agit de la présence de la théorie de l'ami et de l'ennemi. Ou si je m'exprime avec ma propre terminologie, la deuxième dimension du schéma binaire. Bon, laissons la terminologie. Dans un second mouvement, Marc Crépan sépare Huntington de Carl Schmitt en estimant que le moment schmittien représente une dimension irréductible de la politique, alors que Huntington l'a réduit à l'application mécanique d'un principe abstrait. Il me semble qu'il y a quand même une légère divergence en termes de l'interprétation de l'œuvre de Carl Schmitt entre Marc Crépan et Étienne Balibar. Car Étienne Balibar affirme, je le cite, « C'est ici que les formulations d'un Carl Schmitt peuvent être utiles à condition d'en renverser les objectifs et la méthode. Schmitt appelait concret l'ordre fondé sur les identités dominantes de l'histoire nationale et impériale, qu'il s'agissait pour lui d'imposer ou de forcer dans la réalité. » Fin de citation. Cependant, la convergence entre les deux personnes, entre les deux, ou la commonality pour parler comme Huntington, semble l'emporter sur la divergence, dans la mesure où Étienne Balibar affirme également que, je le cite, nous ne sommes pas obligés d'adopter ce point de vue identitaire. Nous pouvons identifier la dimension concrète de la politique dans le fait même des conflits d'identité. Fin de citation. Je voudrais clore cet exposé en avouant que le titre de conférence, de cette conférence débat, a été un peu une fausse question. Parce que le terme corps de civilisation indique dans cet ouvrage d'Étienne Balibar, ce terme corps de civilisation indique des groupes d'individus. Ce sont des groupes d'individus qui circulent sur la Terre, allant des prolétaires aux étudiants, aux professionnels, aux intellectuels, selon l'expression d'Étienne Balibar. Il est donc pratiquement évident que la philosophie joue un rôle de médiation entre les universitaires qui l'enseignent. En même temps, on peut se poser la question de savoir qui ne fait pas partie de ce corps. Si l'on interprète le terme « civilisation » au sens des conflits d'identité, la philosophie qui se donne comme tâche la déconstruction de la politique de la puissance refusera de réduire les conflits d'identité à un seul horizon, celui de l'ami et de l'ennemi. Cette philosophie insistera sur le fait que la politique ne peut se réduire à la question de la puissance, même si cette philosophie ne se réduit pas non plus à une théorie normative. Certes, le médiateur évanouissant, donc une notion importante dans ce livre, le médiateur évanouissant dont la figure apparaît dans ce livre porte en lui un message, celui de la tolérance. L'intervention du médiateur évanouissant a pour objet nos rapports aux frontières. Par exemple, le médiateur évanouissant traduit. Certains individus transgressent des frontières grâce au médiateur évanouissant. Néanmoins, il n'est pas nomade, selon Étienne Balibar. Je dirais que c'est un peu normal parce que il ne s'agit pas tellement de la conscience de soi personnelle. En réalité, il s'agit de l'Europe comme médiateur entre le Moyen-Orient et l'Amérique qui disparaîtrait dans ses effets. Il disparaît sans faire exploser de bombes. Le médiateur évanouissant, c'est aussi une figure de non-violence. En 2003, la France avait derrière elle l'opinion publique arabe parce que la France soutenait la poursuite des inspections au lieu de bombarder. Aujourd'hui, des corps de civilisation, des groupes d'individus circulent partout sur la Terre. Certains d'entre eux le font pour remettre en cause l'ubiquité et la dissymétrie des frontières. Comme je vous l'ai déjà dit, les problèmes soulevés en 2003 subsistent et sont reproduits de façon élargie et inégale. C'est pour ces raisons que j'ai choisi ce livre pour nous pencher ensemble sur le rôle de la philosophie et l'idée de médiation entre civilisations. Merci beaucoup.
Merci.